Europejskie.
Rozumią tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe pour une nouvelle émission en voie de déconfinement. Je m'explique, je suis bien présent dans le studio 51 de RFI, mais mes invités sont eux sagement installés dans leur bureau ou dans leur salon, ils sont au téléphone. Je vous invite à un Carrefour de l'Europe un peu particulier autour d'un grand invité. Il a été le premier ministre de son pays, l'Italie. Il est aujourd'hui le doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris et le président de l'Institut Jacques Delors. Bonjour, bonjour. Enrico Letta.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Merci d'être en ligne de Rome, autrement dit chez vous, vous avez vécu le confinement et où petit à petit vous reprenez votre liberté d'aller et venir dans les rues de la capitale italienne. L'Italie a été particulièrement meurtrie par la pandémie du coronavirus. Comment envisager l'après ? L'initiative franco-allemande d'un fonds de relance de 500 milliards d'euros financé par un emprunt de la Commission marque-t-elle un tournant dans la construction européenne ? Comment sauvegarder la transition écologique et l'objectif de neutralité carbone en 2050, quelle place dans le monde pour l'Europe post-coronavirus? À mes côtés, pour vous interroger virtuellement présents eux aussi, puisqu'ils sont au téléphone également, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef du quotidien La Croix, et Paolo Levi, correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA. Bonjour, buongiorno à tous les deux.
Bonjour, Daniel.
Bonjour, Enrico.
Et comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International avec Beniamino Morante. Enrico Letta, après plus de 2 mois de vie recluse dans leurs appartements et maisons, les Italiens et notamment les Romains ont enfin retrouvé depuis quelques jours un petit plaisir qui, je pense, leur va droit au cœur, prendre un café expresso au comptoir d'un bar. Avez-vous cédé, Enrico Letta, à ce petit plaisir ?
Oui, j'ai absolument cédé, mais j'ai surtout cédé à une autre tentation absolument incroyable, parce que le café au bar, c'était normal aussi dans le passé, mais se promener au Vatican ou passer à la Bocca della Verità tout seul, alors là, franchement, c'est unique, parce qu'il n'y a pas de touristes, et donc on a une chance incroyable, donc je suis en train de saisir toutes ces opportunités que cette période assez incroyable, dramatique, nous offre.
Alors ce petit expresso ristretto et cette balade sur la place Saint-Pierre, c'est la marque d'un retour à la normale qui reste encore fragile, Enrico Letta.
Oui, oui, tout est très lent parce que les gens, naturellement, n'ont pas la confiance totale qu'on puisse redémarrer normalement. Et puis, il y a toute une série de demandes d'appliquer des règles strictes, de maintenir les distances. Et il y a beaucoup de télétravail qui reste, donc il y a très peu de déplacements, très peu de trafic. C'est pour ça que je disais que vraiment on a la possibilité de profiter de Rome dans sa beauté comme on l'a jamais fait. On le fait peut-être le 15 août, quand il y a peu de touristes dans la ville, où il n'y a que des touristes mais il n'y a pas de Romains.
Jean-Christophe Ploquin, vous avez envie d'intervenir justement sur le tourisme romain et vaticanesque peut-être ?
Précisément, Enrico Letta, je dois dire qu'à titre personnel, lorsque l'Italie a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait rouvrir ses frontières aux touristes européens le 3 juin, tout à coup, personnellement, je me suis dit ça y est, c'est vraiment le début du retour à la normale et voilà, s'imaginer déambulant en Italie cet été, c'était un superbe horizon. Mais cette ouverture des frontières, est-ce que elle est vécue positivement en Italie, parce que à la fois, effectivement, ce sont des gens qui vont venir et qui vont permettre à l'industrie touristique italienne de redémarrer, mais est-ce que les Italiens sont vraiment sûrs que les touristes venant d'autres pays européens ne risquent pas de faire une sorte de deuxième vague du Covid ? Comment est-ce que c'est vécu en Italie aujourd'hui ?
C'est une situation assez mitigée pour le moment. C'est-à-dire, on a tous la perception, et ça c'est assez répandu, que la partie économique maintenant de la récession va être très dure. Et donc il est absolument nécessaire de redémarrer et on ne peut pas se permettre de perdre cette saison touristique que pour un pays comme l'Italie est très importante. Donc il va y avoir toutes des règles, tout ce qui va être appliqué, les précautions vont être au top. Mais je pense qu'il y a une grande attente que les touristes arrivent, surtout les touristes français, allemands, qui sont les plus importants pour le tourisme italien. Pour le reste, tout est très lent et tout va être encore très lent parce que, vous savez, ce n'est pas seulement une question de mettre à nouveau l'offre. Il faut aussi qu'il y ait une demande. Et la demande aujourd'hui est encore basse de tous les côtés, c'est-à-dire les gens s'interrogent sur comment peut-on faire. Je pense que c'est seulement une question d'expérience. Moi, j'ai vu, par exemple, cette semaine, qui a été cette semaine de début de déconfinement quasi total, au tout début, il y a eu quelques jours de rien, ou de presque rien. Quand les gens voient que les choses se passent et qu'en fait, il n'y a pas de retour au pire, alors on prend un peu plus de confiance. Donc, je pense que ça, c'est important. Il faut absolument être très attentif parce que les chiffres qu'on écoute à la télévision qui arrivent de loin, du Brésil ou des États-Unis, nous disent qu'on est en plein Covid encore. Donc, il faut absolument appliquer des règles, il faut être très strict et très attentif.
Enrico, l'Italie était le premier pays européen à être touché par le coronavirus à un moment où le reste de l'Europe et les autres Européens n'avaient pas forcément compris la violence du virus. Il y a eu des mots malheureux de la part de certains leaders politiques européens, des gestes malvenus comme par exemple l'interdiction d'exportation et donc d'importation de matériel médicaux par des pays comme l'Allemagne ou la France, des fermetures de frontières sans réelle concertation. Les Italiens ont eu le sentiment d'être abandonnés par les Européens. Alors, je parle peut-être davantage des pays voisins que des institutions, nous y reviendrons. Ce chacun pour soi qui s'est affiché au premier jour de la crise, ce repli national derrière ses frontières, est-ce qu'on aurait pu l'éviter, à votre avis ?
Ça a été franchement terrible. Ça a été terrible et ça, on le paie encore, toujours, en termes de l'euroscepticisme qui s'est installé dans le pays assez fortement. Il y a eu une montée, tous les sondages le disent, pendant ces derniers 2 mois, de manque de confiance vers l'Europe et vers les pays voisins. J'ai été frappé, je dis même sidéré, par un sondage qui est sorti il y a quelques jours dans lequel on demandait aux Italiens quels sont les pays amis et quels sont les pays ennemis. Et à la fin, la majorité, une quasi-majorité d'Italiens mettaient comme pays amis la Chine, la Russie et les États-Unis et comme les ennemis l'Allemagne et la France. Évidemment, ça a été à cause non seulement de ce premier moment, vous citiez, Daniel, de façon très précise, des éléments qui ont été tellement visibles et de communication tellement évidente que ça a été perçu par le pays entier. Et en plus, en même temps que ça se passait comme ça, il y avait un avion chinois qui arrivait avec un beau drapeau chinois, un avion russe qui arrivait avec des beaux drapeaux russes, avec des médecins, avec des masques sanitaires. Donc les gens ont vu ça. Évidemment, ce n'est pas ça, parce qu'on va en parler, mais l'aide de la Chine, la Russie est une aide, ou même des États-Unis, qu'on peut compter en quelques millions d'euros. Alors ce que l'Europe est en train de faire pour l'Italie, on va le compter en dizaines de milliards d'euros. Donc il n'y a absolument pas de comparaison possible. Mais quand vous avez des forces politiques qui poussent contre l'Europe, et donc qui racontent chaque fois que l'Europe est mauvaise, est le mauvais ami, est le faux ami, et vous avez ces images-là, alors c'est facile que les choses se passent comme ça. Et en plus, ça c'est le point essentiel pour comprendre aussi la situation italienne, après 2 crises, comme la crise financière de 2008-2012, et surtout la crise des réfugiés de 2014-2015, dans lesquelles, dans toutes les deux, il y a eu la perception nette en Italie qu'on était laissé seul et que l'Europe n'avait pas été à la hauteur du défi et que les autres pays européens n'étaient pas assez solidaires. Et aujourd'hui, on se trouve dans cette situation. Donc il faut vraiment y réfléchir, travailler et avoir des idées sur comment faire bouger cette situation.
Jean-Christophe Plequin, Lacroix, vous avez une autre question à poser à Enrico Letta.
Oui, un petit peu sur cette relation entre notamment l'Italie et l'Allemagne. Donc il y a eu tout récemment une interview de Luigi Di Maio, donc le chef de la diplomatie italienne, dans le grand quotidien populaire allemand Bild, et en quelque sorte son discours, c'était de dire aux Allemands, aux touristes allemands, venez dans notre pays cet été. Donc est-ce que, voilà, il y a aussi peut-être du côté italien un nouveau discours pour essayer de jeter des passerelles finalement à destination des autres pays, comme vous l'avez dit, notamment l'Allemagne, qui était très mal perçue par l'opinion italienne toutes ces dernières semaines.
Je pense qu'il y a eu un tournant important. Ce tournant était le sommet franco-allemand et Macron et Merkel qui ont pris cette initiative, je pense, a été vraiment une initiative à saluer positivement parce qu'on ne s'attendait pas autant d'ambition. Ça a été bien géré en termes de substance et de communication. Je pense que ça a un peu a fait bouger les lignes. C'est un peu comme le Whatever It Takes de Mario Draghi de juillet 2012, quand Draghi avait dit les choses importantes qui avaient fait un peu changer la donne en termes de situation sur la finance de la crise précédente. J'ai comme l'impression que ce sommet, naturellement, si les choses vont suivre les promesses qui ont été faites, ce sommet va être considéré par l'histoire comme un moment, comme un tournant, parce que ça a donné l'impression à l'establishment italien, premièrement, au gouvernement. Di Maio était le leader de 5 étoiles. Le 5 étoiles n'a jamais été tendre avec l'Europe, avec l'Allemagne, avec la France. Donc c'est un peu un revirement très important que je salue là. Donc ça a fait changer les choses et j'espère que maintenant on puisse appliquer de nouvelles initiatives et surtout qu'elles soient appliquées d'une façon intelligente. Et alors là, les gens pourront les percevoir. Par exemple, l'idée que j'ai, moi, je prends cette occasion pour la lancer, est que l'argent qui va être dans le grand paquet européen, avec toutes ces initiatives à partir du recovery plan dont Macron et Merkel ont parlé, que ce ne soit pas donné tout aux États. Parce que s'il est donné tout aux États, les États vont le passer aux citoyens, aux entrepreneurs qui risquent la fermeture, aux chômeurs, aux gens qui ont des difficultés, et les politiciens locaux vont raconter que c'est eux qui ont fait ça, c'est pas l'Europe. Parce que ça, c'est toujours le même jeu. Donc je propose, je voudrais qu'on invente un système pour lequel ce soit l'Europe. Et que cet argent qui va arriver aux gens ait le drapeau bleu avec les étoiles. Parce que c'est la seule façon de faire comprendre aux gens ce qui est en train de se passer.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescal.
Carrefour de l'Europe, nous sommes donc avec Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, le président de l'Institut Jacques Delors, et à mes côtés, virtuellement parlant évidemment, Jean-Christophe Plotkin, rédacteur en chef du quotidien La Croix, et Paolo Levi, correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA. Alors, l'Union européenne, et on l'a déjà un petit peu évoqué, a connu lundi 18 mai une journée à rebondissement dont elle a le secret et qui comptera très certainement dans son histoire, après plusieurs sommets européens qui n'avaient pas réussi à mettre en place une politique de relance de l'économie. À l'issue d'une rencontre via le système de la visioconférence, eh bien Angela Merkel et Emmanuel Macron ont proposé un fonds de relance économique de 500 milliards d'euros qui prendrait la forme d'un emprunt lancé par la Commission européenne et qui serait redistribué aux régions et aux secteurs en difficulté. Enrico Letta, vous aviez déjà commencé à évoquer la façon dont cet argent pourrait être redistribué. En tout cas, aussitôt cette initiative connue, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, n'a pas boudé sa satisfaction.
C'est une percée historique. C'est la première fois que la France et l'Allemagne tombent d'accord pour financer par de la dette commune des dépenses budgétaires dans les États membres de l'Union européenne. Cela va avoir deux conséquences majeures. La première, c'est que pour la première fois, nous allons pouvoir soutenir la relance économique dans les États qui ont été les plus touchés par la crise du coronavirus. Et donc nous allons éviter des divergences économiques croissantes entre les États membres de l'Union européenne et entre les États membres de la zone euro. La deuxième conséquence, elle est politique. La France et l'Allemagne affirment haut et fort leur volonté de voir la solidarité entre États européens placée au cœur de la construction européenne. Parce que la solidarité, c'est recevoir à mesure de ce qu'on a été touché par la crise du coronavirus et rembourser en fonction de ses capacités économiques.
Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances. Alors le moment est historique, car pour la première fois de son histoire, l'Union va lancer un emprunt en son nom, ce qui va créer une dette commune aux 27 pays de l'Union européenne. Le moment est historique, car Angela Merkel s'est ralliée à la demande des pays du sud de l'Europe d'une plus grande solidarité budgétaire européenne. Emmanuel Macron a réussi à convaincre Angela Merkel, c'est ce qu'espérait l'Italie, et plus généralement les pays du sud, Enrico Letta.
Oui, je pense que c'est vraiment, ça a été un moment historique. Je suis d'accord avec ce que Bruno Le Maire vient de dire. C'est un moment historique surtout parce que la France a su convaincre l'Allemagne. Ça, c'est la chose essentielle. Et le couple franco-allemand a un sens quand il est comme ça, quand il a de l'ambition, quand il fait bouger les lignes, quand il propose quelque chose d'avancé et quand il aide les autres. Ça, c'est le sens du couple franco-allemand. Sinon, franchement, il n'a pas de sens. Et ça faisait beaucoup de temps qu'on ne voyait pas une initiative du couple franco-allemand si bien ciblée, avec le bon timing. Et je pense que vraiment, elle va faire bouger les lignes. La plus grande difficulté va être dans le camp de Angela Merkel, parce que la France était sur cette ligne, on le savait. Je pense que ça a été aussi à cause du fait que la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, l'Irlande, la Slovénie ont créé cette initiative au tout début de la crise pour faire en sorte que les choses bougent vers quelque chose de semblable à ce qu'aujourd'hui est en train de se mettre en place. Et la France donc a toujours eu cette idée, elle a toujours travaillé dans cette direction. Elle n'avait jamais trouvé une oreille attentive en Allemagne.
Et alors justement, Enrico Letta, comment expliquer ce changement d'Angela Merkel?
Bon, écoutez, moi, j'ai aucun doute. Il y a deux motivations. Une motivation, c'est la motivation générale, c'est-à-dire Angela Merkel, c'est quelqu'un qui comprend très bien que l'Allemagne heureuse dans une Europe malheureuse devient malheureuse elle-même. C'est-à-dire, le continent européen et surtout la zone euro est tellement intégré qu'il est impossible d'avoir quelqu'un qui a de la chance et pour lequel les choses vont bien avec les autres qui sont au désastre. Je dis toujours que les premiers qui ont demandé à Merkel d'aider l'Italie, c'était les gens de Mercedes, parce qu'ils disaient que ce n'est pas une question seulement de marché en plus pour nos produits, c'est le fait qu'un tiers de Mercedes est produit en Italie par des petites, moyennes entreprises, etc. Donc, quelque chose de beaucoup plus important. Mais il y a une autre raison qui est liée au fait qu'on a vécu, il y a deux semaines, un événement assez percutant qui a été l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, qui a été tellement dur contre l'Europe, tellement nationaliste, qui a été salué positivement seulement par le Premier ministre polonais et le Premier ministre hongrois, et je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus, que ça a été à la fin un but contre son camp de la part de l'Allemagne. Il a mis l'Allemagne dans un coin, il a ôté la possibilité de l'Allemagne de jouer un rôle leader que l'Allemagne a toujours eu. Donc à la fin, ça a été vraiment cet arrêt, un but contre son propre camp. Et Angela Merkel, en leader intelligente qu'elle est, a dû avancer, a dû bouger, a dû relancer. Et donc, je pense qu'il faut remercier les juges de la Cour allemande, parce que sans eux, peut-être on n'aurait pas eu tellement d'ambition. Naturellement, je plaisante un peu, parce qu'en fait, cet arrêt de la Cour de Karlsruhe est très négatif sur le moyen-long terme. Il va créer un tas de problèmes. Il faudra les résoudre. Je pense que seulement une procédure d'infraction de la part de la Commission européenne, qui est selon les traités la gardienne des traités, donc qui est en charge pour chercher de remettre les choses en place, parce que en vérité, l'arrêt de la Cour de Karlsruhe est un arrêt contre la Cour de justice européenne, c'est un arrêt contre le droit européen. Et donc, il faut absolument remettre les choses à plat. Mais pour l'immédiat, ça a eu un rôle très positif, je pense.
Donc Angela Merkel a été une grande tacticienne profitant de l'arrêt de la Cour de Karlsruhe. Les réactions à cette initiative franco-allemande, sans surprise, soutien enthousiaste des pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Appui sans réserve de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Mais Paolo Levi, évidemment, il y a des pays qui n'ont pas été séduits par cette initiative. Ces pays, on les appelle les frugaux. Paolo Levi de l'agence ANSA.
Oui, voilà, je voulais profiter de cette chance d'avoir Enrico Letta pour lui demander, parce que quand même, comme l'a dit aussi très justement Bruno Le Maire hier au Sénat, je crois, il a dit que voilà, on n'a pas encore gagné cette bataille, et on l'a vu hier avec notamment l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède qui rechignent quelque part à cette offre et proposition franco-allemande, et il voudrait se contenter de limiter à des prêts en échange de réformes, disons, la solidarité européenne. Donc je voulais savoir si Enrico Letta n'était pas inquiet, disons, de ce bras de fer qui est en train de se jouer, quoique effectivement avoir l'Allemagne dans le champ des pays du Sud est déjà une très très bonne chose, mais quand même, malheureusement, en Europe, il faut avancer à l'unanimité, donc chaque pays compte comme l'autre, et voilà, je voulais savoir si on peut garder bon espoir qu'en juin, on va arriver aussi à persuader ces pays à œuvrer pour et à donner leur feu vert pour la mutualisation de la dette. Merci.
Alors justement, ces quatre pays, on peut quand même les citer. Il y a l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark. Ça représente environ 35 millions d'habitants sur les 450 millions que compte l'Union européenne après le départ des Britanniques. Pour poursuivre la question de Paolo Levi, Enrico Letta, quelle est la capacité de blocage de ces pays une fois que l'Allemagne a changé de camp, comme l'a souligné évidemment Paolo Levi de l'agence ENSA?
Bon, premièrement, vous avez été tous les deux, soit Daniel, soit Paolo, très courtois. Moi, je ne les appelle pas frugaux, je les appelle les radins. Je pense que ça, c'est un terme beaucoup plus juste, hein, pour parler d'un choix qui est incompréhensible maintenant. Parce que il est clair que, comme on a vu pendant cette crise, c'est une crise qui n'a rien à voir avec l'histoire des cigales et des fourmis. Le Covid-19 n'a pas attaqué l'Italie et la France, parce que l'Italie et l'Espagne, premièrement, parce que l'Italie et l'Espagne sont des cigales. Il a attaqué aussi New York City, c'est pas une cigale méditerranéenne, européenne, du Sud. Donc ça pouvait être, au contraire, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas. Ça a été comme ça. Donc on s'attend qu'il y ait une solidarité. Parce que si la solidarité n'arrive pas dans cette situation-là, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de solidarité à l'intérieur de l'Union. Donc ça, c'est le premier point très important. Ces pays ont été des pays qui ont appliqué, surtout les Pays-Bas. Moi, je suis resté vraiment très frappé par le narratif très négatif, sombre, de la part du gouvernement des Pays-Bas sur ces sujets, en sachant qu'on est tous ensemble. Donc, le sujet, en vérité, de mon point de vue, est un peu moins sombre en termes de perspective, parce que la Suède et le Danemark sont hors de la zone euro et se mettent surtout à l'intérieur de la zone euro. Et les Pays-Bas et l'Autriche, à la fin, sont autour de 10-15% de la zone euro. Donc vraiment très peu, franchement. Donc je ne pense pas qu'ils seraient capables de bloquer tout ça. Il faudra négocier, oui, il faudra négocier. Peut-être il faut imaginer des opting out, comme les Britanniques avaient obtenu ça dans le passé de l'Union européenne, c'est-à-dire des règles qui leur donnaient la possibilité de ne pas être impliqués dans des décisions que les autres prenaient. Peut-être les Pays-Bas deviennent le nouveau Royaume-Uni. Franchement, je ne trouve pas comment ça puisse être possible avec l'histoire des Pays-Bas, avec l'européisme que dans la société néerlandaise existe, et même dans la physicité d'une société qui est à l'intérieur de 1000 commerces, contacts, tout ça. Mais peut-être, ça peut être la solution. On va voir. C'est pour ça que je salue encore plus chaleureusement l'ambition allemande, parce que casser avec les Pays-Bas et l'Autriche, c'est pas facile. Hein. C'est comme c'était quelque chose qui se passait entre l'Italie, l'Espagne, la France. Non, c'est quelque chose de dur pour eux. On va voir comment les choses vont se passer.
Petite révolution, on l'a bien compris, Enrico Letta. Paolo Levi, l'agence ENSA, voulait rebondir sur ce que vient de dire Enrico Letta.
Oui, deux petites questions. La première, c'est comment Enrico Letta, qui est un fin observateur de la politique italienne et européenne, peut s'expliquer qu'un premier ministre comme Mark Rutte, qui est un petit peu plus d'il y a un an...
Le premier ministre néerlandais.
Premier ministre néerlandais prononçait un discours incroyable sur la nécessité d'une Europe puissance, d'une Europe plus intégrée et fédérale. Et comment est-ce possible qu'il ait changé en si peu de temps de position en se repliant quelque part sur lui-même, disons sur des positions plus, peu solitaire. Et la deuxième question, est-ce envisageable, mais peut-être il nous a déjà répondu en partie en évoquant les opt-out, est-ce envisageable que si vraiment ces quatre pays ne veulent pas, disons quelque part, s'embarquer avec les autres vers un avenir commun, est-ce envisageable d'y aller nous tout seuls, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la France, bien évidemment, et tous les pays qui veulent, et on mutualise la dette entre nous, et ces pays restent, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, est-ce envisageable de procéder de cette façon-là, même si ça serait dommage, bien sûr, pour l'unité européenne?
Bon, les deux questions sont complexes toutes les deux. Sur la première, je suis tenté de donner une réponse un peu... J'ai comme l'impression que Matrouté jouait un jeu européen l'année passée, mais à la fin, ça n'a pas marché. Et donc, le président du Conseil européen est devenu Michel, l'ancien Premier ministre de Belgique, et non pas lui. Et aujourd'hui, il est... challengé par son ministre des Finances, donc qui est l'autre radin pour la situation. Les deux se disputent sur la place d'Amsterdam-Den Haag, qui est des deux le plus radin, parce qu'il y a, de ce que je comprends, une lutte pour le leadership du pays et dans le futur. Donc je crois qu'à la fin, on est un peu piégé dans une question de politique interne et de destin de Mark Rutte. Il est vrai aussi que les Hollandais ont une perception différente des choses par rapport aux Belges, aux Italiens, aux Français. Ça a été toujours comme ça, mais jusqu'à casser comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, franchement, je ne m'attendais pas. Et je ne trouve pas impossible qu'on arrive à considérer des opt-out. Là, le problème sera pour l'Autriche, parce que franchement, je ne vois absolument pas l'Autriche, qui en plus a un gouvernement conservateur vert. Je ne vois pas les verts autrichiens se mettre dans une situation comme ça. J'appelle même les verts européens à reconsidérer un peu les choses, parce que si l'Autriche tient une position de ce genre-là, en ayant les verts à son intérieur comme force politique principale, franchement, j'ai perdu un peu quelques points cardinaux de la boussole. Et donc on va voir ce qui va se passer, et ça va être une négociation dure. Je ne pense pas qu'on va arriver, Paolo, à une mutualisation de la dette. Je pense qu'on va arriver à des solutions communes pour le futur en cherchant de la dette pour le futur. C'est important, je pense, de savoir que même l'Allemagne n'arrivera jamais à admettre qu'il y a une mutualisation de la dette ou arriver quelque part. Et je pense que, de mon côté, je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est des eurobonds sans les nommer eurobonds. Donc je pense que c'est un peu un jeu pour ne pas solliciter les mauvais instincts de l'opinion publique comme celle de l'Allemagne. Donc il faut peut-être jouer ce jeu, on le joue, et à la fin c'est comme ça.
Enrico Letta, on a compris, les négociations vont être ardues car il va falloir convaincre les 25 autres pays. Et pour la question de la répartition de ces fonds, de ces subventions, quelle clé de répartition selon les pays, les régions les plus touchées par la crise sanitaire, les économies les plus affectées, selon le PIB des différents pays? Cela promet donc des négociations serrées. Puis il va y avoir évidemment un autre paramètre qui va entrer en jeu, c'est le verdissement de la relance économique. Pour rappel, l'Union européenne s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour y voir un peu plus clair, nous allons faire un petit détour par la rédaction du Courrier international. Bonjour Benjamin Omrant.
Bonjour Daniel.
Avant même que le plan de relance entre Angela Merkel et Emmanuel Macron soit scellé, et avant que les Européens en discutent, la question se posait déjà à Bruxelles. La relance économique est nécessaire, mais à quel niveau faut-il mettre le curseur de la transition écologique pour que l'Union européenne atteigne ce fameux objectif d'un bilan carbone neutre en 2050? Alors, avec un coup de frein, au contraire, un petit coup d'accélérateur, et la question est posée dans les pages de l'hebdomadaire Espresso.
Alors oui, Daniel, en fait, aujourd'hui, comme nous l'explique l'hebdomadaire italien L'Espresso dans un article très fouillé, il y a deux visions qui sont en train de s'opposer à Bruxelles. Alors, d'un côté, il y a ceux qui sont, entre guillemets, les partisans d'une relance résolument tournée vers l'écologie. Ce sont par exemple des associations, comme on les connaît, mais pas seulement, parce que en fait, il y a aussi des représentants des États et même des chefs d'entreprise, nous indique L'Espresso, qui militent pour que la relance soit verte. En fait, c'est un ensemble de personnes qui, pour résumer, a un objectif, c'est que le fameux Green Deal, le plan vert présenté par Ursula von der Leyen en décembre de l'année dernière, soit maintenu, voire qu'on accélère le rythme de la transition écologique. Mais de l'autre côté, il y a un autre camp, nous explique L'Espresso, qui lui, au contraire, Il voit dans cette crise une occasion qui était totalement inespérée jusqu'à il y a peu de temps de retarder, voire d'annuler toutes ces réglementations qui entravent ses affaires. En fait, ce camp, comme on peut s'y attendre, il est représenté par une série de lobbies qui sont celui des énergies fossiles, du plastique ou encore des transports, qui espèrent que leurs secteurs, qui sont polluants évidemment, puissent être sauvés par Bruxelles. D'ailleurs, il y a des lobbies, mais en fait, nous apprend l'Espresso, il y a également des pays qui militent en fait pour que cette révolution verte soit retardée. Et surtout, le bloc de l'Est de l'Europe, Pologne et République tchèque en tête, qui fait aujourd'hui pression sur la Commission pour qu'elle mette en suspens ses projets de transition écologique. Alors, la question que vous allez me poser, évidemment, c'est qui va gagner cette bataille au final? L'Espresso esquisse une réponse et il suggère en fait un dénouement en deux phases. Parce qu'il dit que dans une première, celle que nous sommes en train de vivre, la priorité sera d'aider les entreprises en difficulté pour éviter les pertes d'emplois immédiates. Mais ensuite, viendra une seconde phase qui, en fait, selon l'hebdomadaire, sera celle de la reconstruction proprement dite. Et à ce moment-là, cette phase, l'Espresso, en fait, il conclut sur une note positive. Il est probable que les prêts et les aides européennes seront soumises à des conditions précises liées à la transition écologique.
Merci Benjamin Morante, courrier international L'Hebdo et courrierinternational.com, le site Enrico Letta. Évidemment, il y a un risque, mais Emmanuel Macron et Angela Merkel l'ont bien balisé. Est-ce que le Green Deal soit un peu le perdant de cette relance économique post-coronavirus? Car il y aura évidemment la tentation d'aller au plus pressé.
Bon, merci au Courrier International, premièrement. Pour moi, c'est une lecture incontournable hebdomadaire, et merci à l'Express aussi pour cette très belle piste de réflexion. Moi, je pense que cette situation de cette année 2020 si particulière risque d'avoir deux victimes. Une victime, c'est le Green New Deal, donc cette perspective verte du futur de l'Europe. Et la deuxième, c'est la conférence sur le futur de l'Europe. Donc, une, cette politique transversale verte sur tous les grands sujets, et l'autre, cette idée de changer pour le mieux les institutions européennes pour rendre les citoyens plus proches de l'Union et rendre l'Union plus avec un meilleur état de fonctionnement. Je pense que ces deux victimes, il faut absolument éviter qu'elles deviennent victimes. Il faut les sauver. Il faut sauver le Green New Deal et il faut sauver la conférence future de l'Europe. Je les mets ensemble parce que ça aurait dû être, cette année 2020, l'année des deux. Le 9 mai dernier, avec la déclaration de Schuman, 70e anniversaire, on aurait dû démarrer avec cette conférence qui était et qui reste, de mon point de vue, très importante. Elle a été postposée, naturellement. Et ce Green New Deal dont Ursula von der Leyen parle beaucoup. Alors, je pense et je trouve que les mots de la Commission, les mots de Ursula von der Leyen, les mots de Frans Timmermans sont très importants et la poussée de tous les pays importants de l'Europe est derrière eux. Il est vrai qu'il y a des pays qui freinent. Donc la Pologne, vous avez cité, est le plus important d'entre eux. Et il est très important qu'on puisse aider les pays qui aujourd'hui sont en train de faire des relances économiques, disons l'après-Covid, à ne pas faire seulement de l'assistance ou seulement à gérer les blessures. Parce qu'il y a des situations incroyables qui se passent aujourd'hui. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, que tous les gouvernements d'Europe ont fait des lois de budget, des lois de bilan, qui ont été toutes avec très peu d'argent pour investir. Il y avait toujours besoin de couper, de faire des coupes. C'est la première fois qu'il y a la possibilité d'investir, parce que pour répondre à la récession, on a eu la possibilité, les pays ont la possibilité de investir et de suspendre le pacte de stabilité, donc les règles budgétaires strictes. Bien, il ne faut pas que cet argent soit dépensé seulement en regardant au passé, parce que ça, c'est un grand risque. Il faut que cet argent soit dépensé en regardant au futur. Il faut profiter de ce moment pour faire ce changement. Donc, il est très important que ce discours ne soit pas renvoyé. Et la même chose pour le futur de l'Europe, la situation, la relation avec les citoyens. On a vu, on a compris quelle est l'importance d'une relation positive entre le citoyen et l'Europe. Il faut donc faire bouger les lignes aussi sur ce point très important.
Jean-Christophe Ploquin, Lacroix, vous aviez une question à poser à Enrico Letta.
Oui, Enrico Letta, donc dans la continuité de ce que vous venez de dire, donc et de des investissements d'avenir en quelque sorte, est-ce que justement le fonds de relance tel qu'il a été évoqué dans le compromis franco-allemand, est-ce que vous pensez qu'il doit être principalement orienté vers justement le soutien à des industries qui auront besoin d'aller vers de se transformer dans le sens du Green Deal, du pacte vert, ou est-ce que finalement comment va pouvoir se faire l'arbitrage avec des dépenses qui sont peut-être plus aussi fondamentales dans le domaine de la santé qui a été très éprouvé, vers quoi doit aller la priorité finalement de cet énorme montant de 500 milliards d'euros qui va être débloqué?
Je pense qu'il faut vraiment penser au futur. Et quand je pense au futur, je pense à un futur dans lequel, par exemple, si on regarde au secteur des transports, ce sera plutôt le transport en commun à être privilégié et non pas le transport aérien. Et je dis ça parce qu'on a vu tous nos pays qui ont été très très généreux vers leurs compagnies aériennes. C'est compréhensible dans un premier moment parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans, mais il est clair que le futur sera un futur dans lequel les compagnies aériennes ne joueront pas le rôle qu'elles ont joué dans le passé. Et on sera dans un futur dans lequel les transports seront différents, la mobilité sera différente. Donc je pense que la question des transports en commun, un petit exemple sur lequel je réponds à la question de Jean-Christophe Ploquin. Et en même temps, il y a aussi toute une série d'autres aspects qui sont liés aussi à comment faire en sorte que notre vie quotidienne, une vie quotidienne dans laquelle il y a plus d'attention aux aspects verts de la vie. Je salue le fait qu'en Italie, le gouvernement a fait une mesure positive en faveur, par exemple, des vélos. Je pense que c'est quelque chose de très important dans nos villes, dans nos petites villes. Il faut redécouvrir probablement une possibilité. Aujourd'hui surtout qu'on va entrer dans un temps de transition, mais peut-être aussi le futur, dans lequel le télétravail va être beaucoup plus employé que dans le passé. Et donc, à la fin, dans laquelle la mobilité sera différente. Et je pense qu'il faut réfléchir à tout ça. Il faut que tout ça soit tout de suite mis en marche avec intelligence et détermination.
Alors ne pas oublier que ce plan, cette idée, cette initiative franco-allemande, c'est pour l'instant une idée, une initiative qu'il va falloir convaincre les 25 autres pays, qu'il y aura évidemment des modifications, même si on sent bien qu'on est dans la bonne direction. Il ne faut pas non plus oublier que les différentes institutions européennes ont déjà mobilisé 540 milliards d'euros, que ce soit la Commission, la Banque Centrale Européenne ou la Banque Européenne d'Investissement, pour parer au plus pressé le soutien aux salariés, par exemple via le chômage partiel, ou le financement du chômage un peu partout en Europe, et puis évidemment le soutien aux entreprises qui sont prises un peu à la gorge. Par rapport à la crise de 2008-2010, l'Europe a plutôt été plus réactive. Et puis il ne faut pas oublier non plus, Enrico Letta, je pense que c'est important, il faut en dire un mot, peut-être les 3% de déficit budgétaire, c'était un dogme, il a volé en éclats en quelques heures, et puis il faut peut-être dire un mot sur les dettes qui explosent, mais peut-être quand même dire un mot sur, pour la première fois quand même, le financement du chômage partiel un peu partout en Europe, et on peut quand même dire un mot sur le fait que c'est en France qu'il est le plus généreux, et bien c'est grâce à de l'argent européen qu'on va pouvoir le financer. L'Europe a été sociale pour une fois, on lui reproche souvent le fait de ne pas l'être souvent ou pas assez, et on peut ne pas mettre en parallèle que et bien ça s'est fait parce que les Britanniques ne sont pas là. C'est une coïncidence ou pas, Enrico Letta?
Non, je ne pense pas, Daniel, que ce soit une coïncidence. Je pense que c'est peut-être une conséquence. C'est-à-dire, les Britanniques ont toujours été ceux qui ont mis le veto et ont bloqué tout avancement de l'Europe sur... Il y a beaucoup de sujets, j'en prends trois qui sont essentiels aujourd'hui. Le social, et donc la santé dans le social, l'éducation et l'harmonisation des impôts. Dans ce troisième, par exemple, on se retrouve avec les paradis fiscaux au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Irlande. Et ça génère un tas de problèmes. La question de l'éducation, on connaît très bien qu'est-ce que ça veut dire, mais le socio-sanitaire, c'est l'autre aspect essentiel. Alors là, c'est un grand pas en avant. Avec les deux projets, le projet SURE, le projet contre le chômage, et le fait que le MES va être utilisable seulement pour les dépenses sanitaires, et donc pour refaire l'offre sanitaire. pense que c'est un pas très important. De toute façon, c'est la plus grande initiative sociale que l'Europe ait jamais mis en marche dans les 70 ans de son histoire. Je pense que c'est quelque chose d'énorme. On se rappelle tous les conflits entre Jacques Delors et Madame Thatcher sur ces aspects-là. Et à la fin, elle avait donné son feu vert sur d'autres aspects de la vie européenne en gardant ce veto sur le social. Et aujourd'hui, une partie de la réponse européenne est sociale. C'est un grand pas en avant aussi par rapport à la crise d'il y a 10 ans. Parce que dans la crise d'il y a 10 ans, à la fin, la réponse européenne avait été seulement de nature financière. La grande réponse avait été la réponse de la BCE avec le vote vérité, que c'est tout le reste. Oui, oui, il y avait eu le ISM, mais c'était toujours plutôt côté finance. Alors qu'aujourd'hui, on a les deux piliers, le pilier social, et on a aussi, avec ce recovery plan, que naturellement, il faut voir comment les choses vont se terminer, qui est le pilier économie réelle, qui est l'autre aspect très important. Donc je pense que oui, on est dans un moment historique, et l'Europe est en train de se faire encore une fois, à travers une crise. Je pense qu'il faut saluer ça. Il faut savoir que cette fois-ci, l'Europe a été capable de répondre rapidement et d'une façon beaucoup plus large et efficace de l'autre fois. Il est vrai que cette crise est beaucoup plus profonde que celle d'il y a 10 ans, mais il est vrai aussi qu'il y a 10 ans, on avait eu de 2008 à 2012, 4 ans de très peu en termes de réponse européenne.
Beaucoup d'hésitations.
En 2012,
on s'en souvient.
Bougé.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien et l'actuel président de l'Institut Jacques Delors. Et à mes côtés, virtuellement parlant bien sûr, Jean-Christophe Plequin, rédacteur en chef du quotidien La Croix, et Paolo Levi, correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA. Enrico Letta, l'Europe demain, point d'interrogation, on a l'habitude de dire que l'Union européenne sort renforcée des crises. À vous écouter, c'est plutôt le cas, même si cette crise est loin d'être finie.
Je pense que oui, l'Europe va sortir renforcée de cette crise et elle avait démarré avec l'impression que les choses allaient tourner très mal, avec toutes les choses dont on a parlé, tous les conflits entre pays et les difficultés, les retards et tout ça. Franchement, si je vois la réaction, la rapidité de la réaction, je pense que les choses sont en train de bouger. Et je crois maintenant que c'est le moment de la détermination et de l'ambition. Il y a aussi une grande nouveauté par rapport à il y a 10 ans. La grande nouveauté, c'est le fait que le monde va entrer dans un bipolarisme États-Unis-Chine. Et on a tous compris que chaque pays européen tout seul va avoir beaucoup de difficultés, même à être entendu de la part des États-Unis ou de la Chine.
Alors justement, votre dernier livre qui a été publié il y a une petite année environ aux éditions Pluriel s'appelait « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». Faire l'Europe, c'est-à-dire pas uniquement un grand marché, mais s'appuyer sur les valeurs et sur une certaine façon de concevoir la vie avec un mode de vie bien particulier que connaissent les Européens face aux Américains de Trump, aux Brésiliens de Bolsonaro ou aux Chinois de Xi Jinping. Faire l'Europe dans un monde de brutes, est-ce que ce sera plus facile ou plus difficile après cette crise? Oui ou non, Enrico Letta?
Oui, parce que l'ambition est là et parce qu'on a tous compris que chaque pays européen, si on laisse l'Union, si on fait 27 Brexit, chacun fait son Brexit, on va être tous petits dans un monde de géants. Dans quelques années, on va être encore plus petits dans ce monde de géants. À la fin, on va devoir choisir si être une colonie américaine ou une colonie chinoise. Moi, je les aime beaucoup, soit les Américains, soit les Chinois. Et naturellement, avec les Américains, on a une relation historique qui va rester. Mais on est européen. Et on est à la maison, qu'on soit à Paris, à Rome, à Stuttgart, à Stockholm. On a les mêmes approches sur beaucoup de sujets très importants. Et donc, il faut qu'on soit ensemble pour être influent dans le monde américano-chinois.
Sur la relation entre l'Italie et la Chine, Jean-Christophe Plequin de La Croix, une question à vous poser, Enrico Letta.
Oui, Enrico Letta, donc lors du dernier voyage de Xi Jinping en Europe, donc il y avait eu des accords assez spécifiques signés entre l'Italie et la Chine, et vu de Paris, on pouvait avoir le sentiment que l'Italie devenait un peu un maillon faible justement dans cette unité européenne face aux appétits chinois. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire machine arrière pour les autorités italiennes ou comment sortir un petit peu de ces accords qui ont été signés à cette époque?
Bon, c'est une très belle question de la part de Jean-Christophe Ploquin et je réponds en disant que ces accords avaient été signés et cette visite avait été conçue pendant une phase de la vie politique italienne qui est derrière nous, heureusement. Parce que c'est la phase dans laquelle Salvini était au gouvernement, c'était même le pilier du gouvernement. Et tout ça avait été fait dans une philosophie d'être contre la France et l'Allemagne, contre l'Europe, créer une alternative. L'Italie qui joue sur un autre scénario. Heureusement, ce temps a terminé. Et moi, je pense qu'il n'est pas question de faire marche arrière. C'est-à-dire la relation avec la Chine est une relation de partenariat sur laquelle on doit travailler tous ensemble en tant qu'Européens. Donc aujourd'hui, il faut faire ensemble un discours sur la relation avec la Chine qui est nécessaire parce que ce sera un des grands sujets de l'avenir. Vous savez, je pense que le jour après la fin de cette crise, on aura deux grands sujets géopolitiques sur lesquels il faut se poser le problème. Le premier, comment restaurer, recréer, relancer une communauté transatlantique, parce que franchement, elle a éclaté avec le Royaume-Uni qui est sorti et avec lequel c'est très difficile aujourd'hui de parler. Je prends cette occasion pour féliciter la détermination de Michel Barnier, le négociateur européen qui est en train de travailler vraiment très bien avec un partenaire très compliqué et les États-Unis de Trump. Là aussi, j'espère que les choses vont changer au mois de novembre. Premier sujet. Deuxième sujet, la relation avec la Chine. Et donc, quelle sera la relation avec la Chine du futur? Il faut se le poser et il faut le gérer ensemble, en tant qu'Européens.
Et dans l'État, Jean-Yves Le Drian a eu une formule un petit peu choc, en tout cas que les médias ont repris. Le monde d'après, ce sera le monde d'avant en pire. À vous écouter, pas forcément. Alors Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, faut-il le préciser?
Non, je ne suis pas pessimiste sur le futur. Je pense que la façon dans laquelle on est en train de gérer cette pandémie est une démonstration d'un monde, premièrement, d'un monde qui est attentif à la centralité de la santé et de la vie humaine. Permettez-moi de faire une réflexion de caractère général. Il y a eu beaucoup de pandémies dans le passé. C'est la première fois qu'une pandémie porte nous tous à faire un choix. Et le choix est celui de dire on arrête l'économie pour sauver des vies humaines. On paie un prix du point de vue économique, mais on le fait parce que la vie humaine, la personne est sacrée et vient de l'avant. Les crises d'épidémie du passé ont fait des millions de morts. Et on voyait les gens mourir et la vie continuait comme ça. Aujourd'hui, c'est différent. Et je pense qu'il faut saluer cet aspect. C'est un aspect d'évolution qui est très important, naturellement pour ceux qui ne sont pas dans le négationnisme. Ce que je vois dans Trump, Bolsonaro, c'est un négationnisme, qui est le même négationnisme qu'ils ont sur le climate change, sur le changement climatique. Ils appliquent la même idée. Non, je pense qu'on est en train de vivre une situation meilleure. Et je ne pense pas que ce soit un futur pire que le futur qui nous attend.
Merci Enrico Letta d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci à Jean-Christophe Ploquin, La Croix, et Paolo Levi, l'agence italienne de presse ANSA, de m'avoir accompagné. Merci à Beniamino Morante de Courrier International, réalisation Pauline Leduc. Vous pourrez écouter ce Carrefour de l'Europe en podcast ou en balado-diffusion, comme on le dit si joliment au Québec, le site RFI.fr à la rubrique podcast. On reste en contact, bien évidemment, via Facebook et Twitter. Daniel Esquel, où que vous soyez, en Italie, en France, ailleurs, en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. On ne se lave